Bonjour Jocelyn Tricot.
Bonjour.
Vous publiez une enquête passionnante et inédite sur la masculinité des prêtres dans l'Église catholique. Pourquoi étudier la construction de la figure du prêtre dégenrée et désexualisée ? Qu'est-ce qui vous a intrigué ?
Alors, ce qui m'a intrigué, c'est un double paradoxe, ce que j'appelle dans le livre le bouger du genre comme une photographie floue, au sens où Pierre Bourdieu dit que l'Église est le parangon de la domination masculine, et ça me paraissait plus complexe. D'une part parce que l'Église, effectivement, a un discours très naturalisant sur la question de féminité et de masculinité, et en même temps, elle institue deux modèles de masculinité, celle du laïc qui est marié, hétérosexuel, et celle du prêtre qui échappe surnaturellement à cette norme naturelle. Et puis, deuxième paradoxe, c'est qu'elle inverse les hiérarchies entre masculinité, puisqu'elle met au sommet de son système de genre ce prêtre qui réalise pas les normes et au-dessus des autres hommes.
Que fait l'Église en sacralisant le prêtre ?
Ben justement, en sacralisant le prêtre, elle construit une image à part de la condition masculine des prêtres, comme s'ils échappaient à cette condition masculine, qui pouvait incarner des rôles plutôt codés comme féminins dans la société, comme le souci de l'autre.
L'écoute.
Voilà, l'écoute, la non-violence, etc. Et ils portent une robe, en tout cas... Tous ne portent pas la robe, mais c'est quand même l'habit traditionnel des prêtres. Et il est perçu comme ne pouvant pas exercer de sexualité, voire ne pouvant pas exercer de violence sexuelle, puisque c'est un sujet aujourd'hui dans l'actualité.
Le prêtre n'est pas un homme comme les autres.
En tout cas, c'est ça qui est intéressant dans les études de genre et les études critiques de masculinité, c'est que non seulement la société hiérarchise les hommes et les femmes, mais en plus hiérarchise à l'intérieur même du groupe des hommes un certain nombre de types de masculinité. Et pour le coup, le prêtre à la fois apparaît, ou a apparu en tout cas longtemps comme un notable, et à la fois n'avait pas les attributs, la puissance économique, la puissance politique et la puissance sexuelle. N'avait pas les attributs qui font normalement un homme un vrai.
Il y a bien sûr dans votre ouvrage une approche historique. Depuis quand date cette exigence de célibat et de chasteté pour les prêtres, Jocelyn Tricot ?
Oui, alors le célibat a été valorisé dans l'Église depuis le début, mais pas pour les prêtres en fait, notamment pour des veuves, pour des moines, etc. Et c'est vraiment la réforme grégorienne autour du 10e, 11e, 12e siècle qui finit d'imposer aux prêtres ce célibat. Et à mes yeux, en tant que sociologue, je ne suis pas historien, mais quand même il y a des moments un peu clés dans cette histoire, c'est le début de la formation de ce que j'appelle l'idéal sacerdotal, enfin que j'appelle, nous appelons généralement en sociologie du catholicisme, l'idéal sacerdotal. Et cet idéal sacerdotal va s'imposer et transformer cette masculinité du prêtre en la faisant, cette masculinité sacrée, à part, sacrifiée, à bien des égards, et auxquels on attribue tout un tas de vertus, y compris celle de la non-violence et de l'absence de sexualité.
Oui, on en revient à cette figure construite, hein.
Oui, tout à fait. Alors en plus, cette figure arrive dans l'histoire à partir de l'après-guerre, dans une situation un peu compliquée, parce que justement la sexualité devient la scène fondamentale de l'identité des personnes et de leur épanouissement, et le prêtre ne peut pas accéder à cette scène à part en discours et rappel des normes catholiques, alors même que les catholiques tendent à progressivement s'émanciper de ces normes.
Pourquoi aussi le refus d'ordonner des femmes ?
Je pense qu'il y a une sorte de verrou dans l'Église catholique qui s'est totalement organisée autour de cette masculinité sacerdotale et qui en a fait sa signature, notamment par opposition à d'autres églises chrétiennes, comme les églises protestantes, qui, elles, n'en ont pas fait un verrou central. Et du coup, ont pu très facilement intégrer les nouvelles normes et l'horizon normatif d'égalité femmes-hommes et d'égalité aussi entre les sexualités aujourd'hui.
Alors, on voit bien qu'on est dans un monde d'hommes. Alors, tout de suite, forcément, on pense à l'homosexualité. L'Église condamne l'homosexualité, mais vous expliquez qu'elle a été une sorte de refuge aussi pour les homosexuels.
Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de mécanismes sociaux qui ont favorisé l'attractivité de la prêtrise durant les siècles. Ces mécanismes ne sont pas éternels. Hein. Ils varient en fonction des sociétés, en fonction aussi du contexte local. Et un des mécanismes, c'est assurément ce que j'appelle dans le livre la vocation placard, c'est-à-dire l'idée pour un jeune homme catholique qui se présente à lui deux voies, le mariage hétérosexuel en tant que laïc ou la prêtrise. Et s'il n'est pas attiré par le mariage hétérosexuel, notamment pour des raisons d'homosexualité plus ou moins conscientes, eh bien la prêtrise est ce lieu idéal pour être reconnu par sa famille, par ses pères, sans avoir à questionner sa propre homosexualité.
Jocelyn Tricou, vous êtes chercheur, vous avez participé à l'enquête commandée par la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Est-ce que la construction de l'identité de genre des prêtres peut expliquer les abus sexuels?
Oui, oui. Donc les violences sexuelles dans toute la société, c'est massivement des hommes qui en sont les auteurs. Et à ce titre-là, l'Église étant, en tout cas la hiérarchie catholique étant exclusivement masculine, le phénomène de la domination masculine joue à plein. Cette domination masculine est totalement renforcée, d'une part parce qu'il y a sacralisation de ces hommes, et donc c'est des hommes qui sont insoupçonnables. Ensuite, il y a ce monde homosexué et silencieux sur sa propre sexualité, donc qui renforce une sorte d'impunité. On ne va pas dénoncer un pédocriminel par peur de dégratiner l'image de l'institution. Et voilà.
Alors, comment expliquer le silence de l'Église alors sur les violences sexuelles, même si c'est en train de changer?
Je pense qu'un des phénomènes majeurs, c'est encore une fois ne pas abîmer l'image de l'institution. C'est la peur du scandale, c'est aussi cette incapacité à distinguer une sexualité consentante entre adultes qui est, à nos yeux de contemporains, tout à fait légitime, et une sexualité criminelle à l'égard d'enfants, non consentant par définition.
Alors, comment vous avez travaillé pour cette enquête?
Alors, très bonne question, parce que j'ai bien vu dans certaines réactions catholiques un souci de féminiser la portée de mon travail et donc d'attaquer plutôt sur des questions de méthode, ce qui est intéressant. Évidemment, je ne pouvais pas faire une enquête systématique par questionnaire auprès de tous les prêtres et religieux de France. J'aurais été bloqué et puis ça n'a pas forcément d'intérêt. La question n'est pas la quantification ou l'aveu, puisque certains prêtres m'ont dit, mais donc on confondu l'enquête sociologique et le confessionnal en pensant qu'ils étaient face à moi obligés d'avouer quelque chose. J'ai travaillé sur différents matériaux parce que la masculinité, c'est à la fois des pratiques, mais aussi des représentations. Et donc, j'ai travaillé, par exemple, sur un corpus de films pour essayer d'évaluer un peu les représentations sociales externes au clergé, mais sur le clergé. J'ai travaillé aussi par entretien auprès de prêtres. J'ai fait une centaine d'entretiens de type récit de vie. Voilà, j'ai aussi fait un certain nombre d'immersions ethnographiques dans des couvents, des séminaires, donc les maisons de formation, pour des futurs prêtres, et puis dans des stages aussi, puisque l'Église s'est mise à proposer des stages en non-mixité choisie pour des hommes autour des questions de masculinité. Et je me suis posé cette question assez rigolote. Pourquoi, au même moment que la Manif pour tous, l'Église lance ce genre de pratique? Qu'est-ce qui s'y joue? Et qu'est-ce qui s'y joue surtout pour ceux qui les initient, c'est-à-dire un certain nombre de prêtres? Et mon hypothèse, que je défends dans l'ouvrage, c'est que c'est aussi une manière pour eux de réévaluer leur masculinité en devenant l'expert de la masculinité des laïcs. Et effectivement, dans ces stages, les prêtres expliquent à des laïcs comment vivre leur masculinité, ce qui est assez cocasse, au fond.
Merci beaucoup, Jocelyn Tricou. Je rappelle que votre livre « Des soutanes et des hommes », qui est une immersion passionnante dans un monde, finalement, qu'on connaît mal, cet ouvrage est publié aux presses universitaires de France. Merci beaucoup.
Merci à vous.